Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et tous. Dans ce nouvel épisode, on vous partage notre conversation avec Agnès Crépet. Agnès, c'est une développeuse logicielle engagée. À travers ses différents engagements et son travail, au quotidien, elle contribue au développement d'un monde du numérique plus éthique et plus diversifié. Avec elle, on a parlé de médias alternatifs, de l'exploitation des ressources pour faire nos téléphones, du manque de diversité et de la place des femmes dans la tech.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Néo Travail. Et comme à chaque nouvel épisode, on a une petite question rituelle. On va te demander de te présenter, que tu nous dises quelles est ton ou tes activités professionnelles actuellement.
Alors, je travaille pour une société néerlandaise qui s'appelle Fairphone. Je suis aussi dans une société française qui s'appelle Ninja Squad. Mais la majeure partie de mon temps, je travaille donc pour Fairphone. Et Fairphone, c'est une entreprise qui fait un téléphone dit éthique. Et dans cette société, je m'occupe d'ingénierie logicielle. Et j'ai une équipe qui lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones. Et une autre équipe aussi qui gère l'IT, donc l'informatique classique d'entreprise, tout ce qui n'est pas vraiment exotique. La partie un peu plus spécifique de mon job, c'est plus voilà, ce département qui lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones.
En deux mots, si tu pouvais nous dire un petit peu les moments forts, les temps clés en fait, de ton parcours qui t'ont amené à occuper ce poste aujourd'hui.
Alors j'ai commencé quand j'ai fini mes études d'informatique dans une école d'ingénieurs. Quand j'ai commencé, j'ai fait des jobs plutôt corporate, on va dire, pendant une petite dizaine d'années, je dirais. Et au bout de ces 10 ans, mon conjoint et moi, on est partis. On a fait un break d'un an pour partir un peu voyager. Et on allait rencontrer des gens qui faisaient le même boulot que nous, mais ailleurs, quoi. Donc on a passé quelques mois en Afrique, quelques mois en Asie. Aussi un petit peu dans la Silicon Valley, mais bizarrement, c'est pas forcément l'endroit du monde qui nous a le plus inspiré, même si avant de partir, on se faisait une joie d'y aller. Et je pense que c'est le premier vrai break, substantiellement parlant, on s'arrêtait de bosser. Et après, le truc un peu spécifique, c'était vraiment cette rencontre avec des gens très différents et très inspirants, en fait. Des gens qui nous montrent qu'il peut y avoir une informatique qui est différente, une informatique qui n'est pas forcément au service de l'innovation technologique. Et ça, c'est en partant, je pense, qu'on s'en est rendu compte. Ça nous a vraiment éclairé sur beaucoup de choses, et c'est ce qui nous a aussi, en tout cas personnellement, pour ma part, inspiré pour changer un peu plus radicalement une fois que je suis revenue, quoi. Et en 2018, j'ai rejoint Fairphone. Donc j'ai quitté la France, je suis allée vivre là-bas, et j'ai découvert une entreprise dont le projet était de faire un produit très très différent des produits tech qu'on peut trouver aujourd'hui, puisque c'est un produit qui est durable, c'est un produit qui n'est pas tourné vers l'innovation technologique à outrance, etc. Donc les deux gros breaks, voilà, c'est ce tour autour du monde là, la rencontre de développeuses et de développeurs d'autres pays, et le fait de partir sur Amsterdam pour rejoindre une boîte qui fait un produit tech différent, quoi.
À côté de ces breaks là et ces moments forts de ton parcours qui t'ont amené à changer un petit peu ta façon de travailler, est-ce que toi t'as d'autres engagements qui contribuent peut-être à l'engagement que tu portes aujourd'hui ?
Alors, je fais partie, j'ai cofondé une... Alors, j'avais parlé de Mixit, mais j'ai commencé par là, puis je reviendrai après sur d'autres trucs. Mais j'ai cofondé une conférence à Lyon qui s'appelle Mixit, qui est une conférence qui existe depuis une dizaine d'années. Et avec les personnes qui étaient à l'origine de ce truc-là, on avait envie de montrer que la tech avait une influence dans ce monde, pas forcément positive, mais on voulait mettre en exergue tout ça, quoi. être pas que sur les innovations technologiques, justement, mais de montrer, on va dire, le côté parfois obscur de la tech et de donner ce recul-là à des gens qui font des boulots comme nous, quoi. Donc, principalement des développeuses et développeurs. Et aussi, depuis le début, dans Mixit, on a un fort accent sur la diversité dans la tech. Donc, on a voulu, à travers cet événement, essayer de promouvoir des profils qui sont pas forcément ceux qu'on voit majoritairement dans la tech occidentale, à savoir des personnes, des mecs plutôt blancs, jeunes, hétéros, enfin voilà. Donc on a essayé depuis le début d'avoir plus de diversité et justement le voyage dont j'ai parlé tout à l'heure a été aussi un bon moyen de rencontrer des gens différents. Donc je me souviens avoir rencontré deux filles en Indonésie qui nous ont donné plein de portes ouvertes, plein de réseaux là-bas. C'est des filles qui sont venues, qui ont fait une keynote à Mixit. J'ai rencontré aussi des gens au Togo, notamment quelqu'un qui s'appelle Horacio, qui animait des communautés techniques au Togo et qui, d'ailleurs, Horacio a rejoint Mixit il y a 3-4 ans. Donc Mixit, voilà, depuis le début, c'est d'essayer de promouvoir une autre tech, on va dire, plus inclusive, plus éthique, etc. Et je fais partie aussi d'une association française qui s'appelle Duchesse France et qui officie sur le domaine des femmes dans la tech et qui essaye de les rendre plus visibles. Donc, à travers plein d'actions, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que des personnes identifiées comme femmes puissent rejoindre ce domaine-là, qui n'est pas forcément, je dirais, hostile, mais en tout cas, qui peut être pas très diversifié. Et du coup, leur donner confiance. Donc, on fait parfois des séances d'aide pour que des filles puissent soumettre des talks à des conférences, animer des ateliers, on les met en avant à travers des articles. Voilà, on fait plein de choses différentes qui permettent de donner confiance aux filles à faire des métiers techniques. Et oui, le truc dont je voulais parler au début, mais dont je ne parle pas tant que ça d'habitude, je fais partie d'un média alternatif qui s'appelle Le Numéro Zéro et qui fait partie des médias qui sont nés il y a 20-25 ans dans le monde des médias alternatifs participatifs en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Indie Media, par exemple. Et moi, quand j'ai découvert ce monde-là, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu d'ailleurs faire mon métier. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, vu que vous demandez de me présenter. Mais il faut savoir que à la fin des années 90, début des années 2000, il y a tous ces médias qui apparaissent dans le monde. Et c'est des médias qui sont bien souvent tenus par des citoyens et qui essayent de lutter contre les masses médias, les médias dits de masse, qui parfois divulguent des informations qui ne sont pas forcément, enfin, on va dire, qui sont parfois assez partiales. Et donc, du coup, il y a un premier média qui est né à Seattle en 99 suite à des manifestations de citoyens qui luttent contre le sommet de l'OMC à Seattle et qui se font réprimer vraiment dans le sang par la police. Et ces répressions policières ne sont pas forcément très médiatisées, même dans les journaux locaux. Du coup, une envie naît à ce moment-là d'ouvrir un site internet pour que ces informations circulent et que les exactions policières soient plus largement diffusées, quoi. Et de là naît tout un réseau. Il y a plus de 100 communautés qui naissent dans plein de villes dans le monde entier, quoi. Donc c'est ces fameux réseaux indie médias, même si au bout du compte, il n'y a pas que des indie médias qui sont nés. Mais il y a plein de médias de ce type qui apparaissent dans le monde entier et qui se reposent sur le fait d'être sur un site internet. Il y a un logiciel qui s'appelle SPIP, hein, qui a été développé par des gens à ce moment-là, un logiciel open source. Et moi, j'avais à l'époque 18-20 ans, et c'est, on va dire, un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, parce que politiquement, je trouvais ça énorme, l'arrivée de ces projets médias alternatifs. Et je me suis dit, bah ouais, si je savais coder, si j'apprends à coder, bah je pourrais participer à faire ce genre de truc, quoi. Et donc, je pense que c'est une des envies qui a quand même été assez importante pour moi, pour me pousser à continuer à faire des études dans l'ingénierie logicielle, quoi. Donc pour moi, en tout cas, le côté politique et numérique ont toujours été fortement liés.
C'est intéressant de constater que ton engagement qu'on retrouve aujourd'hui, finalement, dans ton activité, tes activités, il vient de loin, enfin, il remonte quand même à ta jeunesse, et il y a eu un passage, certes, dans un parcours plus corporate, comme tu le disais, mais finalement, ces valeurs-là, elles sont ancrées en toi depuis longtemps, cet engagement, ce militantisme, en fait, quelque part aussi, que tu maintiens maintenant dans ton activité professionnelle.
Alors oui, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je pense que j'ai vécu une certaine schizophrénie qui vient peut-être de ma génération, je ne sais pas, mais j'ai été très biberonnée à tu finis tes études, tu signes ton CDI, et voilà, c'est cool. Et c'est pas grave, tu milites à côté, quoi. Tu fais un boulot, tu gagnes tes sous, beaucoup ou pas d'ailleurs, et puis bah, à côté tu milites, c'est cool, c'est comme ça la vie, quoi. J'ai mis bien 10 ans à me rendre compte qu'en fait je pouvais aussi aligner mes valeurs dans mon métier, quoi. Et quand je vois aujourd'hui, on parle beaucoup des bifurqueurs, des élèves d'AgroParisTech qui font un discours de clôture, qui appellent un peu les élèves de leur promo à se lever et à se casser, ou on va dire à pas aller là où on voudrait les voir, où on les a vus jusqu'à présent. Bah, je trouve ça génial parce que moi, j'étais loin de ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que aussi loin, même si au niveau militant, j'étais assez effectivement engagée, je passais beaucoup de temps dehors de mes cours et tout ça à militer, quoi, entre guillemets. Mais bizarrement, ouais, je me sentais pas du tout. Enfin, je savais pas, en fait, c'est con à dire, mais je pensais pas que c'était possible de trouver un job dans mon domaine. Hein. Je parle de l'ingénierie logicielle où on pouvait aligner ses valeurs et son métier. Et ça, c'est quand même particulier, quoi. Je sais pas si c'est particulier de ma génération, en fait. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui change 20 ans après, quoi. Je suis invitée régulièrement, enfin pas que moi, mais des gens comme moi, on est invité régulièrement dans des écoles, à intervenir. Et on voit plein de jeunes qui disent purée. Voilà, c'est... Je veux rentrer dans une boîte comme Fairphone. Enfin, je parle pas que de Fairphone, d'ailleurs, mais voilà, je veux avoir cette possibilité de mettre mes compétences d'ingénieur au profit de métiers qui ont du sens. Voilà. Moi, dans ma promo, il n'y avait personne qui parlait de ça. Personne. Même les anards du coin, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était le... Même les 3 anards de la promo de 130, on était loin de... Enfin, il n'y avait pas cette ambition de rejoindre des boîtes comme ça. Donc, je pense que oui, ça a toujours été là, mais que quand même, pendant 10 ans, j'ai pas fait... Les choses, enfin, c'est pas que j'ai perdu 40 heures par semaine pendant 10 ans, mais parce que j'ai appris des trucs techniquement, ça m'a vachement servi, même au niveau de la manière de bosser avec des gens différents et tout ça, ça m'a appris beaucoup. Mais vraiment, sincèrement, aujourd'hui, rétrospectivement parlant, je pense que j'aurais pu bifurquer beaucoup plus tôt.
Bah, c'est surtout que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on en entend beaucoup plus parler aussi. Donc, ça arrive aux oreilles de beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que, du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui se disent ah ben oui, pourquoi pas moi ? Ça résonne avec mes valeurs, ce que j'ai envie de faire, et je pense qu'effectivement il y a 20 ans on en entendait beaucoup moins parler. Et alors du coup, tech éthique aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en donner déjà la définition, qu'est-ce que c'est, et puis nous faire peut-être un petit état des lieux d'où on en est aujourd'hui?
Alors ouais, quand je dis que je bosse, enfin que j'essaye de faire des choses autour de la tech et de l'éthique, c'est vrai que je ne sais pas, je vais vous donner ma définition, hein, donc elle peut être galvaudée aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est absolument pas tout ce qui est autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement tech for good. Enfin, pour moi, en tout cas, plus je vois des choses autour de la tech for good, plus je suis vigilante, on va dire, pas contre, mais vigilante. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, je vais vous donner l'exemple des écoles. Je pourrais vous donner aussi des exemples dans la santé. Quand on dit tech for good, bah, on s'attend à ce que la tech puisse résoudre des problèmes liés au commun, que sont la santé, l'éducation, etc. Et plus je bosse dedans, plus je bosse dans la tech, je veux dire. Et plus je me dis qu'en fait, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech ? Et j'ai un profil en ingénierie logicielle, hein, donc ça serait tout à mon avantage de dire, bah oui, bien sûr que le software peut sauver le monde. Moi, je ne pense pas du tout, en fait. Régulièrement, ça m'arrive d'intervenir dans des écoles ou dans des conférences, souvent on m'interpelle en disant, oui, mais vous ne pensez pas que ça pourrait être quand même vachement bien pour l'éducation nationale, etc. L'État, je parle de la France, que je connais le mieux quand même, parce que c'est le pays où je vis aujourd'hui. Si je parle du numérique à l'école, par exemple, je pense que dans l'état actuel, dans les interventions que je fais dans les classes de temps en temps et tout ça, le nombre de tablettes qui sont laissées à l'abandon parce qu'il n'y a pas forcément la formation des profs nécessaire, elles ne sont pas forcément maintenues, elles ne sont pas sur des OS facilement maintenables, et je ne parle pas du côté privacy en plus, hein, parce que souvent elles sont sous Windows, des logiciels qui, ce n'est pas forcément ce que j'aimerais mettre dans les mains des gamins, mais je ne parle même pas de ce truc-là. Donc je pense qu'il y a un tel gâchis en fait aussi environnemental avec le numérique dans les écoles aujourd'hui, que ce qui serait bien en fait, la vraie question sociétale, éthique, pardon, à se poser, ça pourrait être se dire, est-ce que c'est pas mieux de payer mieux les profs qui en aient plus et qui mettent le chauffage dans les écoles, quoi. Et ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel je suis un peu plus claire depuis peu, en fait, hein, depuis un an ou deux, où je me radicalise peut-être plus, je ne sais pas, mais vraiment, la première question qu'il faut qu'on se pose en tant que technicienne et technicien, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech ? Est-ce qu'en tant que technicien expert du domaine, on a à promulguer une solution technique, technologique pour résoudre un problème ? En ce moment, là, j'ai regardé récemment, il y a des conférences qui sont, je ne crois pas dire de bêtises, organisées par le Mouton Numérique, qui est un collectif très intéressant qui s'interroge sur la présence de la tech aujourd'hui dans nos sociétés. Autour de la dématérialisation des services publics comme la Sécu, comme la CAF, etc. Et y a plein de travers, hein, à la numérisation de ces services-là. Il y a plein de gens qui n'ont plus accès aux services sociaux parce que bah, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde d'ouvrir un compte et de naviguer sur un site qui n'est pas forcément très ergonomique. Enfin bon, bref. Donc la première question, c'est de se poser ça, de se demander si on a vraiment besoin de la tech. Et c'est vraiment en ce sens que, si je pense à Mixit, par exemple, dans Mixit, on fait venir plein de gens qui ne sont pas dans la tech. Au début, on appelait ça des aliens. Maintenant, on ne les qualifie plus forcément que comme ça, mais on a envie de mettre en face de gens du monde de la technique, des gens qui se posent des problèmes qui nous paraissent tout aussi importants que ceux auxquels on peut, sur lesquels on peut s'interroger dans notre propre monde technique, on se défocaliser un peu de notre propre angle d'expert. Je trouve ça vachement intéressant. Et c'est le premier angle pour moi que je vois quand je dis que je m'intéresse aux problématiques éthiques dans la tech. Parce qu'à l'heure actuelle, pour bosser dans une boîte comme Fairphone, où vraiment on est confronté, on bosse sur le coût environnemental du numérique, etc., oui, il faut faire des produits qui durent plus longtemps pour arriver à résoudre tout ça, mais je veux dire, la première question, c'est aussi, la première solution, ce serait d'avoir moins de produits technologiques. Et politiquement parlant, là, je reviens à un deuxième angle que je trouve très intéressant de travailler quand on parle de tech éthique, c'est arriver à décoloniser notre approche du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tout est lié. Le politique et le numérique sont liés. Le numérique est une question politique. Et je pense que beaucoup de problèmes liés au numérique aujourd'hui, que je parle par exemple des déchets électroniques ou du coût environnemental global du numérique, sont liés en fait au fait que le numérique a une approche fortement coloniale, néocoloniale, s'appuie sur des personnes des pays des Sud, mais pas que, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on voudrait, nous, dans les pays occidentaux, quoi. Pour moi, avoir une approche éthique de la tech, c'est aussi prendre en compte cette dimension-là, qui est très politique, hein, le nombre de fois, je le dis tout le temps, mais le nombre de fois qu'on m'invite à des tables rondes, à des SEC, dans des écoles d'ingé ou même dans des conférences quelconques, où on me dit le côté environnemental, hein, faire fun, vas-y, va à fond, parle-en. Par contre, votre truc là sur le social, là, c'est pas ce qu'on veut forcément entendre. Bah non, pour moi, c'est lié, quoi. Genre, le fait d'avoir du cobalt au Congo et de pouvoir l'extraire et de le mettre dans nos téléphones aujourd'hui, et le fait de se dire que bah, potentiellement, c'est bizarre qu'on ne soit pas plus nombreux à se poser ces questions-là et à vouloir en savoir plus, pour moi, il y a une approche néocoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte, en tant que pays occidental, de se reposer sur l'exploitation de personnes vivant au Congo qui vivent dans des conditions assez déplorables en travaillant dans les mines. Donc, c'est le deuxième angle intéressant que je trouve de travailler sur ce qu'on appelle une tech éthique. C'est une tech qui peut accepter, qui doit travailler sur l'angle néocolonial qu'est la tech aujourd'hui. Et le dernier angle, évidemment, qu'il est beaucoup plus général, peut-être moins politique, mais voilà, c'est est-ce qu'une, en tout cas dans les pays occidentaux à l'heure actuelle, on peut penser que la tech est vraiment éthique alors qu'elle n'est absolument pas diversifiée. Je reviens à mon homme blond de 30 ans, hétérosexuel. Il ne représente pas du tout la population. Moi, j'ai bossé avec deux Salim, quatre meufs. Non, je caricature un peu, mais je veux dire, j'ai bossé principalement dans des milieux où il y avait une seule catégorie de population, quoi. Donc, ça interroge aussi tout ça.
Ouais, on va y revenir sur cette question-là, justement. Mais alors, du coup, moi, ça m'interroge parce que j'entends bien ce qu'est pour toi l'attaque éthique. Et puis, mais je me demande comment ça peut s'appliquer, ça, dans une entreprise qui est quand même une société commerciale, chez Fairphone. Comment, concrètement, vous arrivez, toi et ton équipe, à faire avancer ces questions-là? Du coup, il faut moins consommer, il faut essayer d'aller chercher des matières premières peut-être ailleurs. Enfin, comment tout ça fonctionne finalement?
Ouais. Alors bon, la spécificité de Fairphone, c'est qu'à la base, c'est pas une boîte. Hein. Ça a été pendant 2-3 ans juste des activistes qui avaient pas de boîte. C'était un collectif activiste militant entre le Congo, d'ailleurs à parité entre le Congo et Amsterdam. Puisqu'à la base, c'est né d'une campagne de sensibilisation aux minerais de sang, les minerais de conflit, qui sont officiellement nombre de 4, l'or, le tantal, l'étain et le tungstène, même s'il y en a plus, officieusement. Donc, on est loin des pitch Startup Nation, quoi. On est loin du truc où on veut sauver le monde, on a un produit miraculeux, dès qu'il va arriver dans nos mains, on va se sentir mieux et tout ça. Non, pas du tout. À la base, c'est une campagne militante. Donc, du coup, naturellement, quand la boîte s'est montée 3 ans après, de par le fait que les personnes qui étaient à l'origine de ces campagnes militantes se sont dit que, quand même, pour avoir plus d'impact sur cette problématique des minerais, il fallait un peu faire partir du business et montrer qu'il peut y avoir une demande pour des minerais qui ne financent pas des conflits armés. De fait, ces gens-là, cet écosystème de départ, il est vraiment très loin du business for profit, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... Je me moque toujours de ça, mais franchement, enfin, j'en ai fait plein des pistes de start-up. En tout cas, en Europe, c'est assez rigolo, quoi. Enfin, rigolo dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est que il y a plein de gens qui sont en plus pas mes ennemis, quoi. Hein. C'est pas que des gens méchants, mais voilà, qui font des pitchs en croyant vraiment sauver le monde avec des produits technologiques. Et c'est pas du tout le cas de démarrage de Fairphone, ce qui fait que naturellement dans le business, enfin dans cette société, 10 ans après, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on existe en tant que boîte. C'est tout ce que je viens d'expliquer sur l'approche néocoloniale, sur le côté politique de la tech, c'est au centre de nos préoccupations, en fait. Ce pourquoi on fait attention à pas avoir trop d'investisseurs, à être très vigilant sur qui on fait rentrer au board, etc., c'est parce que typiquement, sur un projet comme Fairphone, le premier truc qui peut sauter, c'est le social. Si vous prenez un peu n'importe qui, je caricature, hein, mais je ne parle pas que de Fairphone. Sur un projet comme Fairphone, vous faites rentrer des investisseurs voilà, qui peuvent facilement vous rapporter beaucoup d'argent en peu de temps. Le truc écolo, ça marche, c'est cool. C'est un téléphone durable, on peut le réparer, trop bien. Mais en plus, trop bien. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ouais, votre truc là, dans les mines, là, au Congo, ouais, ça va quoi. Hein, on peut le virer, ce truc-là. Parce qu'en plus, on n'est pas du tout banque. Enfin, je pense qu'on peut s'améliorer sur la communication autour de ça. On a fait un film la semaine dernière, mais je pense qu'on peut vraiment... C'est pas évident de parler de ce côté social et politique. Vous voyez, il faut un podcast, là, j'ai le temps, je peux en parler, mais c'est vrai qu'à matérialiser sur un produit, à commercialiser, c'est vraiment pas facile. Et c'est le premier truc qui peut péter. C'est le premier truc qui peut péter. Et c'est ce qui nous coûte très cher. Parce qu'arriver... On a 14, à l'heure actuelle, on travaille sur 14 matériaux sur les 50 qui sont nécessaires à construire un téléphone. Donc, vous pourriez me dire que 14. Mais oui, parce qu'en fait, il faut parfois 2-3 ans pour arriver à cliner une filiale, quoi. Une filière d'approvisionnement du cobalt ou de l'étain, du tungstène. Donc, c'est un travail de fourmi et c'est un travail assez dangereux. C'est compliqué. Je dis souvent que les héros et héroïnes de Fairphone, c'est pas les ingénieurs comme moi, c'est plus ceux et celles qui sont à bosser dans ces pays-là et tout ça. Et donc voilà, vous imaginez, il faut du temps, il faut parce que c'est pas qu'une question de skipper, enfin de faire attention de plus bosser avec de travailler avec les mafias armées, mais aussi c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on met en place avec les populations locales pour que ça soit pérennisé, pour que ça dure, pour que les conditions de travail soient meilleures, que les salaires augmentent et tout ça. Enfin, c'est énorme le boulot qu'il y a sur place et c'est un travail très long, très lent, qui coûte de l'argent, enfin qui coûte des ressources et qui est lent en fait. C'est vraiment de la croissance lente, quoi. C'est à l'inverse du schéma classique qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la tech où faut grossir vite, hein. Faut grossir vite, beaucoup et vite. Bah, sur des problématiques comme celles que je viens de vous citer, les minerais de conflit, etc., ce qui se passe au Congo, l'extraction minière, arriver à la changer, à ce qu'elle soit plus équitable, c'est lent. C'est lent et on peut pas envoyer 300 personnes d'Amsterdam pour résoudre le truc, quoi. Parce qu'en plus, c'est pas notre optique. On n'a pas envie de présager des solutions à la place des gens qui bossent dans les mines. Donc, c'est un travail main dans la main avec ces gens-là. Hein. Sinon, on serait dans cette approche néocoloniale. Donc, faut refuser d'aller vite, il faut accepter la lenteur. Donc, vous voyez à quel point on a l'antithèse de la tech d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, des boîtes du monde technologique. Donc, chez Fairchild, je dis pas que c'est facile, hein, je dis juste que c'est pas un problème, puisque c'est la nature du projet qui est comme ça. Je vous ai parlé des 2010-2013, enfin, ces trois premières années, là où on était vraiment pas du tout dans une boîte, mais un collectif de militants. Donc, c'est pas un problème de continuer à faire ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a d'autres boîtes, enfin, il y a d'autres projets, quand ça part d'un vrai problème à résoudre et qu'on se tape pas la tête par terre pour trouver ce problème, mais qu'il est déjà là et qu'on cherche à le résoudre, quoi. Le problème est résolu quant à la question de ça, enfin, quant à ce que vous me posiez, à savoir est-ce que c'est vraiment compliqué. Bah non, ça ne l'est pas, puisque ça fait partie de l'ADN de la boîte. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Fairphone, c'est que on veut montrer que c'est possible, en fait, de faire ça. Ça fait 10 ans qu'on existe, on est rentable depuis 2020, certes que depuis 2020, mais ça y est, quoi, on a passé le seuil de rentabilité sans avoir trop d'investisseurs, donc en vendant nos propres produits, et c'est tout. En faisant des prêts bancaires, en vendant notre produit, et voilà. Donc, c'est aussi, Fairphone, c'est un projet qui veut montrer que c'est possible, en fait, de faire des choses. On veut montrer, travailler sur la sensibilisation, montrer l'exemple et faire en sorte de changer l'industrie. Donc, on espère bien que d'autres empruntent le même pas et puis s'inspirer des boîtes un peu similaires, quoi. Mais il faut accepter vraiment de changer radicalement les critères. Donc, plus de croissance rapide. Faut pas aller à la course en investissement. Quand je vois Macron qui fait son truc, quand je vois notre président Emmanuel Macron, pardon, qui fait son, dont l'objectif, le principal projet technologique de notre gouvernement français a été sur les dernières années, c'est pas qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, c'était le cas du gouvernement d'avant, était principalement basé sur le nombre de licornes qu'on allait avoir dans notre pays. Nombre de licornes, valorisation à 1 milliard. Voilà, point final. Qu'est-ce que font ces startups? Qu'est-ce que font ces boîtes? Est-ce qu'elles officient dans la santé, dans le transport? Enfin, peu importe. Rien. Aucune stratégie là-dessus. Donc ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et pour avoir habité un peu aux Pays-Bas, qui est un pays très capitaliste, donc je ne veux pas dire que c'est mieux, tout ça, mais c'est très différent. Il y a en tout cas un terreau autour de la technologie qui est assez différent. Il y a un des gros incubateurs amsterdamois qui s'appelle la WARF Foundation, qui a d'ailleurs incubé Fairphone, met en avant cette tech un peu plus éthique, un peu plus, plus open, plus inclusive et tout ça. Des choses qu'on ne voit pas du tout en France. Donc, on va dire que le gouvernement des Pays-Bas accepte quand même de subventionner des projets qui ne vont pas dans la croissance rapide. Donc ça m'a aussi beaucoup inspiré, ce passage aux Pays-Bas, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres modèles possibles. En plus de mes expériences en Afrique et en Indonésie, j'étais quand même contente de voir en Europe l'influence un peu nordique, où c'est quand même un peu différent de ce qu'on voit ici, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Il faut vraiment changer radicalement de modèle à tout niveau, en fait. C'est intéressant, là, ce que tu nous expliques sur le fonctionnement de Fairphone et puis le travail sur la filière. C'est vrai que on ne se rend pas compte, en fait, des implications que ça a. Moi, ça me questionne aussi sur pourquoi on en arrive à avoir un secteur finalement numérique et de la tech, par exemple, qui est très capitaliste, non inclusif. Tu parlais tout à l'heure du manque de diversité. On sait qu'il y a peu de femmes aussi dans la tech. Toi, c'est quoi ton constat par rapport à ça? Et peut-être d'où ça vient, en fait, tout ça? Parce que ça a peut-être des incidences, finalement, sur là où on en est aujourd'hui.
Oui, je pense. Je pense d'ailleurs que ça serait intéressant d'avoir une tech plus diversifiée, parce qu'on aurait peut-être, on serait peut-être pas là, je ne sais pas. Moi, je pense que, pour revenir au manque de diversité, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Collet qui montrent clairement qu'il y a déjà eu des femmes dans la tech, en tout cas dans les pays occidentaux, c'était le cas. Mais c'était des postes qui étaient moins valorisés, beaucoup moins payés. Et quand les professions autour de la tech ont pris de l'ampleur, que des diplômes ont été créés dans les universités, de software engineer, etc., les facultés, les universités ont vu plus d'hommes arriver. Et donc, les premiers cursus ont été pris par ces hommes. Les ingénieurs, quoi, étaient plutôt des hommes. Et ce sont devenus un peu les chefs de ces femmes, quoi. Et les femmes sont plutôt restées sous-diplômées. Et plus généralement parlant, du coup, à travers ces nouveaux cursus dans les facs et à travers ces métiers qui devenaient un peu plus valorisés, les femmes ont été rapidement écartées. Donc, je pense que ce n'est pas que le cas de la tech, mais il y a quand même beaucoup de métiers. Ça vous renvoie à Enfin, je vous renvoie à n'importe quel sociologue qui fait des études sur le genre, mais voilà, c'est pas un secret. En tout cas, dans les pays occidentaux, je mets toujours ce biais. Enfin, je suis intéressée de garder cet angle-là. Voilà, je pense qu'il y a clairement un rapport entre le genre et le monde du pouvoir dans le monde de l'entreprise. Donc, la tech a été moins diversifiée le moment où le métier a été plus valorisé. Il y a aussi l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les foyers, dans les années 80, qui a fait pas mal de dommages, dans le sens où, particulièrement dans les années 80, on était quand même dans une société où la maman faisait beaucoup de ménage et le papa s'occupait de beaucoup de la maison, quoi. Et quand l'ordinateur arrive, et j'aurais presque envie de dire que ça n'a pas changé, quand même si ça a changé, je ne dis pas que tout est fini, mais à l'époque c'était vraiment le cas, quoi. Et c'est vrai que quand cet ordinateur arrive dans les foyers, bah, il est accaparé par le papa et le petit frère, quoi. La petite sœur et la maman, c'est un peu caricatural, mais elle l'accapare moins. Et du coup, le problème de ça, c'est que les jeux vidéo arrivent, donc pareil, hein, je cite les travaux de chercheuses comme Isabelle Collet. Il y a aussi une chercheuse en jeux vidéo qui explique bien ça, Fanny, je vous retrouverai le nom. Mais en gros, quand les jeux vidéo arrivent, ils sont très, très, très genrés. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, hein, j'ai 45 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, oui, 45, et Tomb Raider. Moi, j'avais pas envie de jouer à Tomb Raider à 18 balais. Pourquoi? Bah, parce que Tomb Raider, elle avait des gros seins, elle avait une taille de guêpe que j'ai jamais eue. Et elle était faite pour mes potes, garçons, elle n'était pas faite pour moi, en fait. Et du coup, ce qui se passe, si je reviens à l'ordinateur personnel, aux jeux vidéo, tout ça, c'est que tout est fait pour écarter les petites filles de l'objet technologique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais des interventions dans des collèges et des primaires, quand vous demandez à des petites... fin de primaire, on va dire, et début de collège, quand vous demandez à des petites filles « Mais pourquoi tu ne veux pas devenir informaticienne ?» ou à des jeunes filles, elles vont vous dire « Bah, parce que c'est pour les gars qui jouent aux jeux vidéo et qui mangent des pizzas. » Je caricature, hein. Il y a beaucoup de stéréotypes qui traînent dans le milieu de la tech. Et donc, il n'y a pas que cette histoire de pouvoir, il y a aussi ces stéréotypes qui ont été véhiculés. Je pense que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde, et je pense que c'est un domaine sur lequel il faut s'intéresser quand on se pose la question de la non-diversité dans les mondes autour des innovations technologiques. Parce que je pense qu'il y a une influence qui est assez énorme. En tout cas, ça a été le cas avéré entre les années 80 et début, et on va dire 2005-2010. Quoi. Moi, je suis typiquement de cette génération-là, où rien ne me poussait à y aller du fait de ces stéréotypes que j'ai décrits juste avant. Quoi. Et pour revenir au tout début de la question, alors du coup... est-ce que tout n'est pas lié? Bah, je pense que si. Hein. Je pense que si vous regardez un peu la littérature écoféministe, bah oui, en plus c'est pas vous que je vais dire ça. Je pense un podcast de spécialistes. Quelque part, ça serait intéressant de s'intéresser à la tech féminisme, au tech féminisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si on pense, enfin, les problématiques sous-jacentes à la tech sont liées aux mêmes problématiques auxquelles font face les femmes. Vraiment. Donc, le fait qu'elles se soient fait jeter dehors dans les années 70-80 parce que ça devenait des métiers mieux valorisés de software engineer, hipster, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait une exploitation massive des pays des Sud et qu'on ferme plus ou moins les yeux, donc ce dont je parlais tout à l'heure, l'approche néocoloniale, pour moi, les deux sont liés. Clairement.
Oui, c'est sûr que c'est un constat qu'on faisait et la tech pour ça est une thématique intéressante en fait. Tu parlais de l'historique un petit peu des femmes qui sortent, qui se font pousser un peu dehors tout d'un coup quand ça devient intéressant le numérique et que ça rapporte des sous. Comme tu as voyagé, c'est quoi ton constat toi dans les autres pays? Est-ce que tu as constaté le même manque de femmes dans ces milieux-là, ou est-ce que tu as vu des choses un peu différentes?
Alors, la question est très bonne parce qu'effectivement, ça m'a bien mis une petite tarte aussi quand j'ai voyagé, c'est-à-dire que j'ai vu des choses très différentes. Donc, c'est une raison de plus pour laquelle je dis tout le temps, il faut s'inspirer d'autres choses que la Silicon Valley. Mais quand je suis allée en Asie, par exemple, notamment en Indonésie, et que j'ai donné, donc avec mon copain, là, quand on voyageait, on donnait des cours, on bossait un peu, on donnait des cours, par exemple, contre le gilet le couvert pour quand on était à côté de Java à l'époque. Parce qu'on trouvait ça intéressant de bosser un peu pour rencontrer des gens, tout ça. Et quand on arrivait à Depok, grosse université techno à 20 km de Jakarta, sur l'île de Java. Je rentre dans la salle de cours dans l'amphi, quoi. Et là, je vois plein de voiles, parce que l'Indonésie est le premier pays musulman au monde. Donc les femmes sont souvent voilées, pas toutes, mais elles sont souvent voilées. Et je vois plein de femmes. Plein de femmes. Je ne pouvais pas vous dire s'il y en avait 60-50%, mais on va dire une bonne moitié étaient des femmes, quoi. En Afrique, j'ai noté des traits assez similaires. Alors, j'y suis moins restée longtemps, donc je ne pourrais pas faire voilà, une généralité, mais j'avais pas mal de filles. Donc, je pense que les Indonésiennes qu'on avait invitées, donc les filles que j'avais rencontrées en Indonésie et celles que j'avais invitées à Mixit, elles avaient fait un petit... elles avaient montré quelques chiffres et elles montraient que, oui, l'Indonésie était dans le top 10 des pays où il y avait le plus de diversité dans la tech par rapport à des pays comme très western countries, comme les US, la France, etc. On était très loin derrière. Donc, pour répondre rapidement à la question, j'ai vu vraiment des patterns différents. Il y avait beaucoup plus de femmes. Et quand on leur demandait pourquoi, à votre avis, il y en a plus, il y a plusieurs réponses possibles, mais je pense qu'il y a... Une des premières réponses, c'est que souvent, il y a une culture qui est différente. Le rapport à la tech est très différent. Est très différent en fonction de l'Indonésie et de la France, par exemple, des pays occidentaux. Les petites filles ne sont pas amenées à ne pas salir les mains pour réparer des voitures quand elles sont petites, quoi. Papa et maman apprennent à leurs enfants, hommes et femmes, à réparer des bagnoles. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. Chez nous, regardez les jouets sexués, à quel point... Il n'y a pas une volonté, mais en tout cas, un trait très clair dans notre culture n'a pas forcément amené les petites filles à fabriquer des choses. On leur apprend plus à faire des jeux de reproduction, à repasser, à s'occuper de bébés, des poupées, et à les habiller, etc. Voilà, je caricature un peu, hein, mais je fais exprès. En Indonésie, il n'y a pas du tout ça. En tout cas, dans les pays asiatiques que j'ai visités, il y avait beaucoup moins ça. Donc, c'est une des raisons qui peut expliquer pourquoi elles se retrouvent aussi dans les filiales informatiques. Et puis, en Afrique, celle que j'ai rencontrée me disait qu'il y avait aussi... que pour elle, c'était un moyen de survie et d'autonomie incroyable, en fait. C'est-à-dire que l'informatique étant possible en remote, vous pouvez travailler à distance, etc. Bah, pour elle, c'était une manière de s'autonomiser qui était très forte. Donc, du coup, elles avaient envie d'y aller aussi pour ça, quoi. Mais j'ai vraiment observé quelque chose de différent. Donc, je dis souvent... quand on me pose la question, encore une raison de tourner un peu notre tête et de pas forcément, en tant que je parle des gens comme moi qui bossent dans la tech, mais de pas forcément s'inspirer que des US, quoi. Que des modèles de start-up dans la Silicon Valley où ça se passe un peu comme chez nous, c'est qu'il y a très très peu de diversité.
Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, nous, on avait trouvé différentes sources qui disent qu'en France, il n'y a que 20 à 30% de femmes dans la tech et finalement, si on regarde dans des pays ailleurs que chez nous et quand on sort de l'Occident également, voilà, ton constat, c'est de dire qu'en fait, il y a des femmes dans le numérique, donc c'est possible. Il y a d'autres modèles qui existent et c'est ça qu'il faut valoriser. Toi, ton vécu par rapport à ça, tu t'es sentie seule en tant que femme quand tu t'es lancée étudiante dans ce secteur-là et j'imagine que tu l'es moins aujourd'hui, notamment avec Duchesse France dont tu nous as parlé en introduction, mais tu as vécu les choses comment, toi, par rapport à ça?
Alors, je me suis souvent sentie seule, c'est vrai. Après, moi, j'ai grandi, je suis enfant unique et j'ai grandi avec mon père. Donc, en fait, au quotidien, j'ai tout le temps été avec un homme, uniquement. Donc, du coup, je n'avais pas l'impression que ça me changeait tant que ça, on va dire. C'est un biais dont je suis bien consciente. Après, je pense que... Les filles de ma génération, je ne fais pas une généralité non plus, mais j'ai deux, trois exemples autour de moi où on n'était pas très nombreuses, où du coup, on avait tendance à un peu se mettre dans le moule, quoi, hein, à pas assumer notre féminité, ce genre de truc. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande solidarité avec toutes les plus jeunes à l'heure actuelle qui sont plutôt à assumer, à avoir envie d'être comme elles ont envie d'être. Moi, j'ai ce souvenir-là de ne pas avoir trop galéré, mais quand même, je faisais pas attention, mais je me restreignais beaucoup, quoi. Je m'habillais pas de manière très féminine. Est-ce que c'était par peur de l'agression? Je sais pas. J'en sais rien. En fait, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que je veux pas dire, c'est, je veux pas dire que c'est pas parce que ça m'est pas arrivé que des problèmes, je veux dire, que ça n'arriverait pas à d'autres, que ce n'est pas arrivé à d'autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai été très à l'écoute des problèmes qu'il y a eu à l'école 42, problèmes d'agression, etc., dans certaines écoles informatiques. Et je veux bien croire que ça existait et que ça existe encore et qu'il y a un vrai souci là-dessus, quoi.
Et du coup, par rapport au monde du travail aujourd'hui dans lequel tu t'inscris, que ce soit à Fairphone ou dans tes autres engagements à côté, comment sont accueillies tes prises de position ?
Alors, chez Fairphone, c'est assez facile, hein, parce que bah, là, c'est une boîte, je dis souvent, la machine à café à Fairphone, on se fait pas trop chier parce que on voit que des gens qui sont super intéressants. Je caricature, mais c'est un peu vrai, quoi. Hein, quand on est en rejoint une boîte comme ça, forcément, c'est cool. Donc, c'est cool aussi sur le côté féministe. C'est-à-dire que bah, tous mes collègues hommes que j'ai, ils sont plus féministes que moi, je pense. Ça, c'est le standard. C'est le standard de Fairphone, mais c'est pas Fairphone. Je pense que c'est aussi les Pays-Bas qui sont beaucoup plus, voilà, à mon avis, il y a plus d'équité et tout ça. Et après, comment je l'ai vécu avant, si je parle pas de Fairphone, alors dans ma boîte Ninja Squad, évidemment, même genre de truc que Fairphone, quoi. On partage les mêmes valeurs, tout ça, donc c'est vachement plus simple. C'est même Cédric, un des cofondateurs de Ninja Squad, qui m'avait poussé à rentrer dans Duchesse France. Et il lit plus de bouquins féministes que moi. C'est quelqu'un qui est, je pense, plus éclairé que moi, d'ailleurs, sur ces questions-là. Il m'alimente de livres. C'est lui qui m'a offert certains bouquins que j'ai trouvé extraordinaires dans mon parcours de féministe. Donc voilà, mais si je me réfère pas à ces deux expériences, mais plus au monde. Avant, j'ai bossé dans le monde du service, j'ai bossé dans une boîte de un labo pharmaceutique du monde de l'homéopathie et tout ça. Énormément de sexisme. Et mes idées féministes, bah, comment elles étaient prises, bah, pas mal, mais comme n'importe quel féministe qui se retrouve dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de convaincus, quoi. Donc, rien de plus ni de moi, quoi, mais je veux dire, des blagues à la con. Moi, quand j'approchais la trentaine et que j'avais pas de gamin, voilà, que des trucs sur le fait que je sois pas mère, l'injonction à être mère, non, mais des trucs, enfin voilà, classiques dans un environnement de travail où il y a peu de gens convaincus, quoi. Et où, du coup, il fallait y aller un petit peu en force, ou voilà, un climat de travail assez conflictuel, en fait, finalement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment que je m'attendais à ce que ça allait changer en rejoignant Ninja Squad ou Fairphone, mais je pensais pas que ça allait être... que ça allait autant m'apaiser, en fait. C'est con, hein, ce que je dis, c'est naïf, mais vraiment, sur le long terme, ça fait maintenant 10 ans, qu'est-ce que c'est cool, hein. Qu'est-ce que c'est cool de bosser avec des gens qui partagent vos valeurs, quoi. Oh, même quand on n'est pas d'accord, même quand on n'est pas... Alors, évidemment, on ne peut pas être tout le temps aligné, mais qu'est-ce que c'est agréable, en fait. Ça change tellement tout, quoi. Donc, oui, je suis contente de bosser pour des boîtes comme ça, évidemment, de contribuer à un monde qui me semble plus intéressant, tout ça, un rapport à la tech qui est différent, mais en plus de ça, au quotidien, c'est bon. Au quotidien, c'est bon, ouais.
Une question, du coup, on va prendre peut-être un peu plus de hauteur, mais alors, du coup, selon toi, comment les femmes peuvent construire ensemble un monde qui serait, enfin, un monde technologique, un monde de la tech, qui serait plus inclusif et plus soutenable? Je pense voilà, à des communautés de femmes ou à d'autres, peut-être d'autres actions qui peuvent être mises en place. Selon toi et ton expérience, comment ça pourrait se passer?
Alors, c'est dur à répondre, hein, mais je pense que déjà, il faut être vigilant sur la diversité, donc faire en sorte que, bah voilà, si vous voyez que d'un coup, on arrive sur des chiffres plutôt à 70-80, à 70-30, 80-20, bah, s'interroger à comment faire en sorte d'avoir plus de diversité. Et après, une fois que vous arrivez à cette diversité, si je prends le problème de la tech, je pense qu'il faut, arriver à poser les problématiques de manière beaucoup plus honnête, en fait. Donc, avoir, comme les codes of conduct dans les conférences, bah, qu'on ait ça clairement aussi dans les entreprises, que ce soit posé, qu'il y ait des process en place qui vont bien pour que ce soit vraiment un safe space. Faire en sorte que la diversité dure et qu'elle s'étale. Par exemple, chez Fairphone, on a une bonne diversité de genre, mais je pense qu'il faut qu'on pousse encore le truc. Sur la diversité raciale, je pense qu'on n'est pas forcément très bon non plus, même si à l'origine, on travaille avec le Congo, avec des gens au Congo, dans les métiers qui sont plus... lié à ce qu'on fait sur le siège social d'Amsterdam, je pense que ça serait bien de travailler ça. Enfin voilà, je pense qu'il faut arriver à maintenir une veille continue sur ces questions-là. Et après, tout ce dont on vient de parler dans le podcast, faire le pendant de l'approche écoféminisme à la tech, pour parler de tech féminisme, quoi, voilà. Et ben quelque part, voilà, comment on le fait vivre, enfin, en gros, quelque part, la prise en compte de ça, la réflexion qu'on peut avoir sur ce tech féminisme, quoi, quelque part, peut se retrouver, en fait, dans les projets sur lesquels on travaille, en fait. Et je dirais pas que c'est le cas chez Fairfax, parce qu'on est plus sur un projet, un produit spécifique, etc. Mais en tout cas, quand le fait d'en parler et d'essayer de voir comment on peut matérialiser un projet qui pourrait correspondre à ça, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Et le fait d'avoir plus de femmes présentes dans ces collectifs-là peut aider, quoi. Je pense pas que. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Mais je vois pas encore, je n'ai pas d'exemple en tête de boîtes qui sont montées où il n'y avait que des filles et qui proposent du coup des projets très spécifiques dans le monde de la tech qui pourraient être différents et intéressants, mais à suivre aussi, quoi. Voilà. À des boîtes plus où il y a moins de mixité, mais du coup pour une raison voulue autour du produit. Pourquoi pas. Je pense que par exemple, l'endométriose, il y a des questions dans le monde médical, par exemple. Le jour où on aura plus de femmes dans ces milieux-là qui s'intéressera à la recherche médicale, à la recherche technologique autour de l'endométriose, ça serait bien, parce que c'est un sujet qui est absolument délaissé en fait aujourd'hui dans le monde médical, parce que c'est principalement qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'hommes là-dedans. Voilà.
Oui, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les biais en fait liés au manque de diversité dont tu as bien parlé. Donc c'est vrai que comme tu le disais, tout est lié, et c'est intéressant de voir que la tech, si elle est bien faite, elle peut être dans l'action, dans le concret, et puis contribuer à changer de modèle en fait. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'explorer un petit peu des parcours comme le tien et des engagements comme les tiens. Pour inspirer un petit peu. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu as justement peut-être des personnes à recommander ? Tu as parlé d'Isabelle Collet, si tu as d'autres personnes ressources comme ça à conseiller aux personnes qui voudraient creuser le sujet, ou alors tu évoquais un film aussi tout à l'heure, enfin voilà. Des recommandations pour ceux qui veulent creuser le sujet de voilà la technologie, alors pas tech for good, mais du coup la technologie au service du bien commun.
Oui, bien sûr. Bon, voilà, Isabelle Collet, vraiment, je vous conseille fortement de suivre ce qu'elle fait. Moi, à chaque fois que je l'écoute, j'apprends des trucs. Et pourtant, je l'ai écouté un paquet de fois, Isabelle. On est même intervenus ensemble sur plein de trucs. À chaque fois, je ne m'ennuie pas. Elle a travaillé sur les rapports intersectionnels, la relation éducative, le manque de diversité dans la tech. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les oubliés du numérique » que je trouve très, très bien. Elle a plein de conférences en ligne qui sont géniales. Donc, Isabelle Collet, sans problème. Après, si je peux parler on va dire de lecture un peu plus large, pas forcément liée à la tech, mais qui m'ont vachement inspirée. Sarah Ahmed, une universitaire, je crois qu'elle est anglo-australienne, qui a travaillé beaucoup sur la théorie féministe, le post-colonialisme. Donc voilà, ça c'est le féminisme intersectionnel. Donc ça voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Plus dans le monde de la tech, je me suis abonné, j'ai lu des bouquins de Lucie Ronfaux, peut-être que vous connaissez, qui écrit une newsletter qui s'appelle Règle 30. Il n'y a pas que des femmes sur Internet. voilà, que je conseille aussi dans des. Parce qu'elle a vraiment cet angle spécifique tech et filles, quoi.
Top, merci du coup pour ces ressources. Et merci beaucoup pour tout cet échange et ces éclairages là sur la filière tech, et puis les avancées et toi, tous tes engagements et ce que tu fais au quotidien. Que ça permette en tout cas de construire un nouveau modèle, quoi, et un monde un peu plus inclusif, un peu plus écologique aussi, et plus écoféministe du coup.
Ouais, exactement.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.